Il y a un an, à cette époque, on se souhaitait tous une bonne année, comme nous faisons ce matin. Est-ce que nos vœux se sont réalisés? Est-ce que nos vœux de l'année dernière se sont réalisés? Est-ce que 2017 a été une bonne année pour vous? Est-ce que 2018 le sera aussi? Comment mesurez-vous la réussite d'une année ou d'un ensemble d'années? Comment mesurez-vous, évaluez-vous la réussite dans votre vie? Comment mesurez-vous le progrès, le fruit, la croissance, la santé spirituelle? C'est vrai que de passer d'une année à l'autre pousse parfois à réfléchir, à faire le bilan, à évaluer les choses. Et en fait, c'est ce que Jean fait dans notre texte. Il est à mi-parcours dans son récit. L'évangile de Jean, il y a 21 chapitres, on est au chapitre 12, et c'est un peu la moitié, et Jean va marquer une transition très forte dans notre texte, un peu comme nous avons fait cette semaine d'ailleurs, à minuit, à une heure précise, on bascule dans une nouvelle année. Bien sûr, cette heure-là est largement symbolique. On pourrait faire ça le 10 avril à 10 heures le matin, mais on choisit le 1er janvier à minuit, et c'est une heure particulière, une heure spéciale qui marque un changement de temps, qui marque une nouvelle année. Et Jean a conçu son évangile aussi avec cette notion de temps, une heure précise qui va être très symbolique et qui apparaît dans notre texte. Vous avez peut-être vu ça en verset 23. Jésus dit « L'heure est venue ». Et si vous avez lu l'évangile jusqu'à là, Jésus a dit à plusieurs reprises « Mon heure n'est pas encore venue ». Il a dit ça en chapitre 2 et puis il a redit en chapitre 7 « Mon heure n'est pas encore venue ». Encore en chapitre 8 « Mon heure n'est pas venue ». Donc on a ce refrain qui est là, qui nous fait attendre, qui nous fait demander, mais c'est quoi cette heure? C'est quand cette heure? Et puis, quelque chose déclenche cette heure en verset 23. C'est un signal très fort pour Jean, où Jésus dit, mon heure est venue. C'est quoi cette heure? Bien sûr, c'est pas, attends, 60 minutes, c'est pas un instant précis, comme minuit. Mais cette heure, c'est la raison de sa venue. Il va le dire, je suis venu pour cette heure. Cette heure, c'est l'heure de sa mort. C'est l'heure de sa mort qui va être suivie de sa résurrection. Cette heure, il va accomplir le cœur de sa mission. Et c'est vrai qu'on n'est qu'au moitié du récit de Jean. Il nous reste encore une dizaine de chapitres. Mais tellement cette heure, ce moment est important, que le reste du livre sera consacré à raconter un seul week-end. Le reste du livre va se dérouler sur un vendredi soir, samedi et dimanche matin, notamment avec la résurrection. C'est ce dernier Pâques que Jésus va vivre. Et tout le reste du livre est consacré à cette heure, cette heure importante. Mais avant de raconter cette heure, on arrive à ce moment et Jean s'arrête un peu dans son récit. Il va faire un bilan du ministère de Jésus-Christ. Un bilan, un résumé de son ministère, de son message, avant de passer dans la chambre haute avec ses disciples et de raconter la mort et la crucifixion. Et puisque c'est l'heure des bilans avec cette nouvelle année, je me suis dit, nous aussi, on pourrait suivre Jean dans ce bilan. On va essayer de dresser le bilan du ministère de Jésus-Christ ce matin et voir ce qu'il en est. Donc je propose de dresser un premier bilan. Après, on va devoir revoir ce bilan. Et enfin, on va trouver quelques principes pour nous, pour notre vie, pour 2018. Donc tout d'abord, on va dresser un premier bilan du ministère de Jésus-Christ. Et ce bilan de mi-parcours que Jean veut faire est déclenché par une requête en verset 20, cette requête de quelques Grecs qui sont là pour la fête de Pâques et qui posent une question. Nous voudrions voir Jésus. Alors ça semble anodin peut-être, mais il y a des choses très importantes qui se passent dans cette requête. D'abord, il faut souligner l'identité de ces personnes. Ce sont des Grecs, alors dans un contexte très juif. Et jusque-là, Jésus a toujours agi parmi les Juifs dans un contexte culturel et religieux qui faisait tout pour exclure les Grecs, les païens. Les Juifs sont vraiment entre eux, et toutes leurs lois, tout leur système de temple était là pour exclure aussi les Grecs. Et donc, en entendant cette question, les Grecs disent, mais nous aussi, est-ce que nous aussi on peut voir Jésus? Nous aussi, est-ce que nous on peut avoir accès à sa personne? Est-ce que nous aussi on peut comprendre son message et bénéficier de son œuvre? Telle est leur question. Et on voit que même leur question est un peu délicate, ils comprennent que est-ce que nous aussi on a droit à Jésus? Parce qu'ils vont aller trouver, ils ne demandent pas directement, ils vont aller trouver Philippe, Déjà, Philippe, c'est un prénom à consonance grecque. Et ils viennent de Bethsaida. Bethsaida, c'est une ville vraiment frontière. C'est peut-être la ville, une des villes les plus loin de Jérusalem, vraiment sur le bord du territoire païen, au-delà de la mer de Galilée. Et donc, ils vont demander à Philippe. Et lui, il va demander à André. Et ensemble, ils vont demander à Jésus. Donc, même les disciples ne savent pas trop s'y prendre avec cette requête. Est-ce que ces Grecs, ils ont droit à voir Jésus, eux aussi? C'est comme si un Allemand demande à un Alsacien de demander à son ami parisien de lui décrocher un entretien pour un entretien d'embauche, par exemple. Ils vont passer comme ça, ne sachant pas si Jésus est vraiment accessible à des Grecs. Et est-ce que Jésus répond à leur question? Est-ce que Jésus répond à cette question des Grecs qui veulent le voir? Je me dis, il aurait pu dire oui, très bien, moi je veux bien, on prend rendez-vous cet après-midi, on prend un café ensemble devant l'esplanade du temple et on va discuter, oui, je veux bien vous voir. Mais ce n'est pas ce qu'il dit, il répond de manière curieuse. Alors, est-ce que Jésus a zappé la question? Est-ce qu'il les a oubliés, les Grecs, pour parler qu'aux Juifs? Mais en fait, le reste du chapitre est un commentaire, est une réponse à cette question. Parce que là, ce que Jean veut nous montrer, c'est qu'à l'heure où des Grecs s'intéressent à Jésus, veulent voir Jésus, veulent comprendre Jésus, à cette heure même, les Juifs sont en train de refuser de voir Jésus. On a des Grecs, des païens qui veulent voir Jésus, alors que les autorités juives et la foule qui est là, eux, ils ne veulent pas voir Jésus. Ils ne veulent pas reconnaître son identité. C'est qui ce gars-là? C'est qui ce fils de l'homme? Qu'est-ce qu'il fait là? Eux, ils ne veulent pas voir qui est Jésus. Et eux, on voit par la suite dans le chapitre, ils choisissent volontairement, ils choisissent l'aveuglement et les ténèbres. Ils choisissent de ne pas voir qui est Jésus. Alors que les Grecs, ces non-juifs, commencent à s'intéresser à le voir. Et ça pousse Jean à faire un bilan. Ce bilan en verset 37. À la fin du ministère public de Jésus, après 3 ans de ministère parmi ce peuple juif, parmi cette foule, parmi ces autorités juives, après 3 ans de ministère public, Jean est obligé de dire en verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Voilà le bilan du ministère de Jésus. Malgré tout ce qu'il a fait, ils ne croyaient pas en lui. Ils n'ont pas reconnu comme l'envoyé de Dieu. Ils n'ont pas reconnu comme le Fils de Dieu. Ils n'ont pas reconnu comme Dieu fait chair pour leur montrer son amour. Comment expliquer si peu de fruits dans la vie de Jésus? Comment expliquer si peu de réussite après un ministère dévoué? Il me semble qu'il faut chercher à comprendre cette incrédulité catastrophique répandue chez son propre peuple qui, eux, bénéficiaient d'un accès privilégié à Jésus par rapport aux Grecs. Alors peut-être on peut dire, Jésus, il ne leur a pas donné assez de preuves, il n'a pas fait assez de miracles. Mais non, Jean dit, il a fait tant de miracles. Jean même a construit son récit pour nous montrer 7 miracle vraiment extraordinaire, impressionnant. Une résurrection d'entre les morts, notamment de Lazare, mais bien d'autres miracles. Et à la fin du livre, il dit Jésus a fait bien plus que ça. Mais je vous ai donné 7 qui sont imbattables. Jésus a fait tant de miracles, ils n'ont pas voulu croire. Donc ça montre déjà que ce n'est pas les miracles forcément qui suscitent, qui produisent la vraie foi. Et beaucoup de gens disent, mais si seulement je voyais, si seulement on me donnait une preuve, si seulement Dieu faisait un miracle pour moi, je croirais. Mais ce n'est pas vrai. Alors, peut-être c'était un problème avec sa prédication. Qui a cru à notre prédication? Verset 38. Était-ce dû à un manque de pertinence de ses enseignements et de sa prédication? Mais rien que cet évangile, on sait que même ses adversaires étaient obligés de dire « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Jésus lui-même était la parole de Dieu. Il a toujours fidèlement transmis les paroles qu'il a reçues de son Père. C'est ainsi que le chapitre se termine, ces versets que nous n'avons pas lus, les versets 44 à 50. Or, Jésus s'était écrié, c'est un résumé presque de tout son ministère, Jésus a toujours transmis les paroles et dit, il était l'envoyé de Dieu. J'aime bien ces versets, versets 49 et 50. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. » Ça, c'était tout le ministère de Jésus. Il a toujours parlé de la part de Dieu. Il était l'ambassadeur parfait. Il était la porte-parole parfait de Dieu. Alors, on ne peut pas dire que sa prédication n'était pas à la hauteur pour toucher ces Juifs. Alors, peut-être faut-il soupçonner sa vie de prière. Il ne priait pas assez ou il ne priait pas les bonnes choses. Mais est-ce qu'on est prêt à dire à Jésus que le manque de fruits dans son ministère était dû à un manque de prière? On a vu comme il a fait avec Lazare. Il est sur le point de ressusciter Lazare. Il se tourne vers son père et dit, « Je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie pour le bénéfice des autres. » On a toujours vu une vie de prière extraordinaire dans la personne de Jésus-Christ. Même dans ce passage, il nous donne un exemple de prière, verset 27. « Mon âme est troublée. » C'est quand notre âme est troublée, on se tourne à Dieu dans la prière. Que prier dans ces moments d'épreuve et de difficulté? Lui-même, il dit, « Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. » C'est normal de vouloir prier la délivrance, mais lui s'appuie sur des psaumes et il sait qu'il est aussi destiné à glorifier Dieu par sa mort. Donc, il modifie sa prière dans une soumission totale à Dieu et dit, « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Voilà une prière parfaite. Il veut la délivrance, il sait que c'est normal, mais encore mieux que la délivrance immédiate, c'est la gloire du Père. Et cette prière, comme bien d'autres, nous montre une dépendance totale sur Dieu, une communion avec lui. Et il reçoit un exaucement immédiat. Une voix vient du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifie encore. Ça, c'est quand même c'est formidable. C'est une communion parfaite entre le Père et le Fils. Et il prie, il reçoit une voix du ciel. C'est vrai que ça ne m'arrive pas souvent, même jamais dans mes prières, qu'une voix du ciel direct exauce mes prières. Ça, c'est Jésus. Alors, on ne peut pas soupçonner un manque de prière, une lacune dans sa vie de prière. Comment se fait-il alors que si peu de Juifs ont vu, ont voulu voir, alors que par rapport aux Grecs, ils avaient les meilleures places, ils avaient le meilleur accès, ils ont entendu une prédication parfaite, ils étaient au bénéfice des miracles extraordinaires. Est-ce que le ministère de Jésus était un échec? Parce que la difficulté pour les premiers évangélistes, ils vont témoigner auprès des Juifs. Mais c'était flagrant qu'une grande majorité des Juifs n'ont pas cru en Jésus. Alors comment expliquer ce rejet, cette incrédulité? Et puis je me dis aussi pour nous, quelque part on se pose souvent les mêmes questions. En France, ne sommes-nous pas troublés parfois par les mêmes réflexions, le même bilan qu'on peut établir sur le progrès de la foi? Si peu de fruits parfois, à vue humaine en tout cas, si peu de gloire, si peu de progrès, si peu de foi. Vous avez témoigné, vous avez prié, vous avez invité, vous avez travaillé, vous avez servi et au bilan, c'est peut-être peu glorieux, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est moi? C'est peut-être moi, je n'ai pas fait assez, je ne suis pas suffisamment en relation avec Dieu, je ne l'écoute pas assez. On peut se décourager facilement. Mais maintenant, je vous invite à revoir ce bilan, à la lumière d'une vérité très importante que Jésus nous donne. Il dit en verset 23, 24, « L'heure est venue, le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est un des versets clés, une pensée clé pour comprendre tout ce chapitre, tout le ministère de Jésus-Christ. Si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne meurt, il ne porte pas de fruits. Jésus nous invite à mesurer la réussite avec ce principe tiré de l'agriculture, le fonctionnement d'un grain de blé. C'est vrai que si vous mettez un grain de blé sur la table, dans un congélateur, rien ne va se passer. Mais si vous mettez un grain de blé dans un trou dans la terre, eh bien, ce grain meurt, le grain meurt, la germe qui est à l'intérieur, une naissance, la future plante, qui devient un épi et qui produit aussi des grains. D'ailleurs, un grain de blé est capable d'en produire, j'ai lu, jusqu'à 50. Donc, une puissance 50 de multiplication. Quand un grain meurt, ça donne 50 d'autres. Mais il faut que le grain là, il meurt, il disparaît. Chaque année, dans le monde entier, nous assistons à ce miracle incroyable, invisible, peu glorieux, mais qui délivre le monde de famine chaque année. Un grain qui meurt, ou des grains qui meurent. On ne le voit pas, c'est peu glorieux, mais on est tous en vie parce que ce monde produit du blé, du fruit, que nous pouvons manger. Et ce grain qui meurt, ça va être la réponse à la question des Grecs, et ça va expliquer le bilan des Juifs dans ce chapitre. Les Grecs qui veulent voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Et Jésus répond en quelque sorte par cette vérité. Et après, il va parler de sa mort, de la croix. Et il va dire, finalement, la réponse aux Grecs, c'est la manière que je vais devenir accessible aux Grecs, au monde entier, c'est de mourir. Vous voulez me voir là, oui, mais c'est me voir, ce qui compte, c'est pas prendre un café ensemble. Vous allez pouvoir vraiment me voir et me comprendre et avoir accès à toute ma personne, à mon œuvre de salut, quand vous me voyez sur une croix. Et la réponse, donc, aux Grecs, on le trouve en verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai élevé, visible, élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Pas que les Juifs, mais les Grecs, les Français, les Japonais, les Nigériens. Et Jean prend le temps de préciser, il disait ça pour indiquer quel genre de mort, quelle mort il allait subir. Et là, il parle de la croix, de quelle mort il devait mourir. Jésus est mort d'une façon particulière, notamment sur une croix. Vous savez comment fonctionne une croix, on met la personne sur une croix et puis on l'élève. La croix est littéralement élevée de la terre, les Romains l'ont conçue comme ça, pour plusieurs façons, c'était un instrument de torture, mais c'est aussi c'était visible, c'est une manière de faire peur à la population, c'est une manière de faire honte à la personne, et que tout le monde voit cette chose affreuse, cette personne condamnée, élevée sur une croix, on ne pouvait pas la rater, une telle punition. Un historien dit la croix, c'était l'épouvantail des Romains pour dire, ici c'est notre territoire, ici César est seigneur, ici c'est nous les chefs, ici vous devez vous écraser. Une croix, c'était l'épouvantail des Romains. Qu'on mettait pour être visible. Mais Jésus, c'est incroyable, il tourne la chose et il y a un double sens. Il dit, moi je vais être élevé, oui sur une croix, mais sur cette croix, cette heure de sa mort, il va être élevé en gloire. Le salut va être visible pour le monde entier à cette croix. C'est ça, et c'est fort. Il ne dit pas l'heure est venue où le Fils doit être crucifié. Il dit l'heure est venue où le Fils doit être glorifié. C'est par sa mort qu'il va être glorifié. C'est incroyable. Parce que dans l'agriculture divine, il ne faut pas oublier, la mort de Jésus, comme un grain de blé, va nourrir des nations. Il va devenir le pain de vie. Et ça, c'est glorieux. C'est cette mort qui va nous apporter le salut. C'est cette mort qui va opérer la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et c'est pour ça que cette mort donne fruit comme un grain de blé. Et même l'incrédulité des Juifs fait partie de ce processus. Ce qui va permettre à Jésus d'être élevé, d'être glorifié, d'être accessible au monde entier, de porter beaucoup de fruits qui va jusqu'à nos jours. C'est parce que voilà, ce peuple juif va le rejeter. Et cette réponse incrédule, finalement, les écrivains du Nouveau Testament ont vu que c'était annoncé par les prophètes. Même ça, la mort de Jésus a été annoncée, mais aussi le rejet, l'incrédulité du peuple a été annoncée. Cette réponse était prédite par Ésaïe. Et cette réponse est même nécessaire pour qu'il y ait du fruit. Alors, c'est ça qui est fort dans ces versets. Verset 39, aussi, ne pouvait-il croire? Parce que Ésaïe a dit encore, Dieu a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Alors, c'est sûr que ces versets ne sont pas faciles à entendre. Ça ne semble pas très gentil de la part de Dieu d'aveugler des yeux, d'endurcir des cœurs. Déjà, c'était un jugement après une choix volontaire de la part des hommes de ne pas vouloir voir Jésus-Christ. C'était un endurcissement. C'était un endurcissement, c'était un jugement. On apprend ailleurs dans la Bible, c'est aussi provisoire, le temps de toucher des cœurs, tels les cœurs français, des cœurs russes, des cœurs angolais, les cœurs américains. Il fait une œuvre dans le monde entier. Et puis même Jean souligne qu'il y a quand même des exceptions dans tout cet endurcissement. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Donc c'est pas complet non plus. Mais finalement, ce bilan qu'on peut faire du ministère de Jésus-Christ, à la lumière des prophéties d'Ésaïe, à la lumière de ce grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, eh bien le bilan n'est pas si catastrophique qu'on le pensait. Ça fait partie du plan de Dieu, c'était voulu, c'était utile et c'est quelque chose de glorieux, tout comme un grain qui meurt. Ça ne semble pas glorieux, mais c'est en train de porter du fruit. Le rejet des Juifs, même ça, était en train de porter du fruit. Donc si on dresse un premier bilan du ministère de Jésus-Christ à mi-parcours, c'est pas très glorieux. Et ça peut être troublé. Comme nous, à notre jour, on peut être troublé parfois par certains endurcissements ou certains peu de fruits qu'on peut voir autour de nous, ou certains soucis de découragement dans notre vie. Mais rappelons-nous ce principe, si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas beaucoup de fruits. Alors maintenant, appliquons tout ça à notre vie pour 2018. Jésus a donné ce principe déjà pour expliquer son ministère et son bilan, qui sur le moment ne semble pas très glorieux, mais est en train de porter beaucoup de fruits. Mais dans les versets 20, 25, 26, il tourne vers nous, il va dire ce même principe, c'est aussi vrai pour mes disciples. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qui me suive, et là où je suis, sur une croix, dans un trou de terre, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous voyez, il dit, maintenant c'est à notre tour de devenir ce grain de blé, si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ. Je me suis dit, pour ce Noël, vous avez peut-être eu un cadeau, comme je sais pas, une écharpe, mesdames, vous avez peut-être quelqu'un vous a donné une écharpe, une jolie écharpe, ou messieurs, un livre, je ne sais pas quoi, une montre. Imaginons que vous allez dans le jardin, vous creusez un trou, et vous mettez l'écharpe, vous recouvrez les terres, et puis vous attendez. La personne qui vous a donné ce cadeau va trouver votre démarche bizarre. Et finalement, c'est du gâchis. C'est du gâchis de mettre quelque chose, une belle chose, dans un trou dans la terre et attendre que ça meure, ça pourrisse. C'est du gâchis si c'est une écharpe. Mais ce n'est pas un gâchis si personne dit à l'agriculteur que c'est du gâchis quand il met un grain de terre dans la terre et qu'il le recouvre. Ça, ce n'est pas du gâchis, parce que là-dedans, il y a une puissance de vie qui va éclore. Et cette année, nous sommes appelés à faire des choses pour Jésus. Certaines pourraient voir ça comme du gâchis, un sacrifice, une perte. Mais rappelons-nous que c'est plutôt un grain de blé que nous sommes en train d'être, que nous sommes en train de vivre. Et que ce grain de blé, oui, il va mourir, mais c'est pour porter du fruit. Si vous voulez servir Jésus cette année, soyez un grain de blé. Un grain de blé qui meurt. Un grain de blé qui s'efface. Jésus, lui, a accompli par sa mort le salut final. Il ne nous appelle pas à monter sur une croix pour sauver l'humanité. Que lui a fait ça. Mais il nous appelle à une série de, on va dire, de petites morts qui vont porter du fruit. Vous savez comment ça marche. C'est une réalité. Les paroles de Jésus sont pertinentes. Pour aimer un conjoint, il faut être ce grain de blé, il faut mourir. Mourir à soi-même, mourir parfois ses conforts, ses priorités. Pour prendre soin des enfants, pour les éduquer, pour les aimer, il faut mourir. Il faut être ce grain de blé qui se donne pour servir dans un ministère de l'Église. Il faut mourir. Peut-être mourir, revoir certaines priorités dans la vie. Ou accepter qu'il y a un temps qui n'est pas très glorieux. Ça se fait en cachette. Personne ne vous voit, personne ne vous honore, personne ne vous glorifie. Mais le Père voit tout ça. Tout comme le Père a vu Jésus qui s'est mis dans un trou de terre, qui s'est mis sur une croix, qui a été enseveli. Ça, c'est un principe de vie pour nous tous. Soyons cette année ce grain de blé qui meurt, sachant que avec Dieu, ça va porter du fruit. Et puis, une dernière pensée, n'arrêtez pas le bilan trop tôt, finalement. Si vous regardez un champ de blé l'hiver, c'est vrai, vous ne voyez rien. Mais c'est peut-être un peu tôt de dire c'est la catastrophe. C'est la catastrophe dans ce champ de blé, je ne vois rien, il n'y a pas de fruits, on a travaillé, on a semé, il n'y a rien. C'est en train de... Oui, les grains, c'est un champ de mort, c'est vrai, c'est un champ de mort. Tous ces grains sont en train de mourir. Mais si vous attendez le printemps, il y a de bonnes chances qu'il y a beaucoup de fruits. Dans notre vie, n'arrêtez pas le bilan trop tôt dans ce que vous faites, dans les prières que vous faites monter à Dieu, dans vos investissements dans l'Église, dans votre vie de foi, dans cette vie de patience, persévérance auquel Dieu nous appelle. Eh bien, c'est lui qui établit, c'est lui qui dresse le bilan final. Et à mi-parcours de Jésus, ça semblait pas très glorieux, il est sur le point d'être rejeté par tout son peuple. Mais ça fait partie de cette agriculture divine qui est en train de porter beaucoup de fruits. Que Dieu nous aide à suivre Jésus et à être ses graines de blé. Je vous invite à prier avec vous. Terminé.